Je veux remercier particulièrement Hélène Franco qui est ici ce soir et qui animera le débat autour donc, de tous ces problèmes de l'enfance et des réfugiés. Voilà.
Bonjour Hélène Franco, ancienne secrétaire générale du syndicat de la magistrature, vice-présidente chargée des fonctions de juge des enfants au tribunal de grande instance de Bobigny, a participé à une soirée débat organisée par l'équipe de Bertrand Tesson au nom du Parti de gauche, soirée qui a débuté par la projection au cinéma Le Concorde à Nantes du film « La mort du dieu serpent » de Damien Froidevaux. L'histoire de Kumba, banni de la République française, est ramenée de force dans un Sénégal qu'elle a quitté à l'âge de 2 ans, et qu'elle n'a plus jamais revue.
Il me semblait que la double peine avait été abolie. Ce n'est pas le cas. Il y a une confusion dans nos esprits.
Oui, absolument. Alors, ça avait été effectivement annoncé à grand fracas par Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur. L'abrogation de la double peine, il n'en est rien, malheureusement, puisqu'on s'aperçoit que des personnes condamnées, d'ailleurs, à des peines... qui ne sont pas très lourdes, qui ne sont pas des peines criminelles, je veux dire, eh bien peuvent effectivement être renvoyés dans leur pays d'origine à partir du moment où ils ne sont pas nés en France et où ils sont condamnés et frappés donc à la fois d'une peine de prison qu'ils effectuent, puis d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière. Donc ça, c'est effectivement ce qu'on appelle une double peine. Alors avec la difficulté qu'on a à la fois affaire à l'ordre judiciaire, hein, la peine qu'on effectue, comme tout un chacun, lorsqu'on commet une infraction, et puis la décision préfectorale qui, elle, pour être contestée, doit être contestée devant la justice administrative. Donc ça fait déjà 2 ordres judiciaires différents. Pour des personnes lambda, c'est très compliqué de s'y retrouver. Pour des personnes qui sont en plus en situation de fragilité, comme la jeune fille du film, hein, La mort du dieu serpent, eh bien, c'est d'autant plus complexe. Voilà. D'abord, si on parle de politique migratoire, il devrait y avoir une différence entre une politique de droite et une politique de gauche. Et puis, il devrait y avoir surtout au cœur de tout ça un certain nombre de principes, premièrement. Et puis, la question de l'intérêt général. Voilà. Et manifestement, je n'ai pas, moi, par exemple, la même conception de l'intérêt général que les concepteurs des 5 lois qui ont jalonné le quinquennat de Sarkozy. Il y a eu à peu près 1 loi par an en matière d'immigration. C'est tout à fait monstrueux, puisque une fois, ils s'occupaient de l'immigration choisie, comme ils disaient. Une autre année, ils se sont occupés des mariages gris, comme ils disaient aussi. Hein, bon, voilà. Donc il y a eu 1 loi par an, en moyenne, sous Sarkozy. Avec le changement de majorité en 2012, ben, ça n'a pas été beaucoup mieux, puisque d'abord, on n'a pas abrogé les lois, moi, que je considère comme scélérates. Voter dans l'urgence à chaque fois et dans la frénésie, hein, législative. Bon, Valls, ministre de l'Intérieur, a pondu une circulaire. Donc la circulaire, c'est tout en bas dans la hiérarchie des normes. C'est tout en bas, c'est bien, bien en deçà de la Constitution qui est tout en haut, les traités internationaux qu'on a pu ratifier. Et puis en dessous, il y a les lois. En dessous encore des lois, il y a les décrets. Et tout en dessous, il y a les circulaires. Donc une circulaire, ça ne vaut pas grand-chose. Voilà. Et une circulaire, ben, par définition, ça s'interprète. Comme la loi peut s'interpréter, mais la loi est quand même beaucoup plus, a une force beaucoup plus importante. Une circulaire, donc, Valls, en 2012, fixe un certain nombre de critères à l'entrée au séjour et puis à la régularisation des sans-papiers, mais critères très restrictifs. Et qui sont interprétés de manière très différente selon les préfectures. Et on a eu une loi qui est complètement passée sous silence, publiée le 8 mars 2016, une loi qui est relative à la politique migratoire, là encore, bah, qui en fait ne fait que rajouter de la complexité à un système déjà très complexe, alors qu'il faudrait posément dire que nous avons des personnes ici qui travaillent, qui élèvent une famille, et qui pour autant ne sont pas régularisées, n'ont pas de papier, qui ne sont ni expulsables parce qu'elles ont généralement des enfants nés en France, ni régularisables dans le contexte actuel, juridique, eh bien il faudrait les régulariser tout simplement. Et là, on atteint l'intérêt général. Pourquoi ? Parce que d'abord, la politique de chasse à l'étranger coûte très cher. Voilà. Ne serait-ce que d'un point de vue pécunier, ça coûte très cher. On a pu calculer que ça coûtait jusqu'à 2 milliards par an à la France d'expulser 30 000, 40 000 personnes par an. Ce qui est totalement ubuesque, quoi. On est au pays de l'absurde. De ce point de vue-là. Et puis, deuxièmement, il est tout à fait de l'intérêt de tout le monde que les caisses de sécurité sociale soient remplies, soient abondées, que les travailleurs qui travaillent dans notre pays soient payés au même prix que les travailleurs lambda qui, eux, ont des papiers en règle. Et donc, effectivement, qu'il y ait des personnes taillables et corvéables à merci parce qu'elles n'ont pas de papiers, ça va à l'encontre non seulement des principes d'égalité des droits, mais à l'encontre même de l'intérêt général de l'ensemble des travailleurs. C'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'en fait, les principes humanistes rejoignent l'intérêt général. Et je crois qu'on ne le dit pas suffisamment. Tout comme lorsque certains leaders de droite ou d'extrême droite claironnent qu'avec eux, on en finira avec l'aide médicale d'État. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que potentiellement, des personnes porteuses de maladies qui pourront être très nocives pour la santé publique, eh bien, ne pourront plus se faire soigner, n'auront plus accès aux soins. Mais alors, quid quand on les croisera dans la rue, ces personnes-là ? Parce que, à moins de changer totalement de régime et de rentrer dans une dictature très dure, comme l'Europe a pu en connaître, et qu'on ne souhaite pas spécialement revivre, je crois, eh bien, de toute façon, des personnes qui ont des enfants ici, nés ici, qui sont là depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui ont un travail, qui bien souvent payent des impôts, eh bien ne repartiront jamais dans leur pays. Parce qu'on voit très bien, d'ailleurs, à travers le film « La mort du dieu serpent », que quelqu'un qui a vécu ici, en France, eh bien, effectivement, peut avoir une couleur de peau différente, peut avoir chez soi des mœurs culinaires différentes, des goûts différents, une culture différente, etc. Mais pour autant, quand il ou elle revient dans son pays de naissance, eh bien, est totalement en décalage. Voilà. Donc, c'est ce déracinement, en fait, qu'il faut aussi prendre en compte. Il faut prendre en compte à la fois, encore une fois, les grands principes et l'intérêt général qui, dans mon esprit, se rejoignent. Et il faut prendre en compte, alors, l'Union européenne, telle qu'elle s'est construite, sur un modèle ultralibéral. Ce qui fait que des personnes qui sont francophones, on dit qu'à échéance 2050, le français pourrait être, je crois, la deuxième langue parlée au monde, voire la première. Ce n'est pas par la démographie française, évidemment, c'est par la démographie essentiellement des pays d'Afrique noire qui sont francophones pour un certain nombre d'entre eux, parce que tout simplement, nous, Français, nous avons un moment, comme les Anglais, comme d'autres pays européens, colonisé ces pays et puis imposé donc notre langue qu'ils ont adoptée hein, et qu'ils ont d'ailleurs enrichi des grands écrivains francophones dans ces pays-là. Eh bien, ces pays qui sont attachés à la France et qui sont attachés à l'Europe d'une manière générale nous regardent en permanence ce que fait l'Europe. Et qu'est-ce qu'a fait l'Europe ces 15 dernières années ? Elle a ouvert les vannes d'un libre-échangisme fou. Elle a décrété qu'en tant qu'ancienne colonie, eh bien, on pouvait traiter avec ces pays comme des seigneurs avec des vassaux. Donc, on est toujours dans ce rapport de domination, avec des accords commerciaux qui sont totalement inégalitaires, qui sont iniques, parce qu'ils tuent la petite paysannerie d'Afrique de l'Ouest notamment. Et si on parle de la France, ça compte beaucoup, hein, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, etc. Et tous ces petits paysans, mais qu'est-ce qu'ils font dans un premier temps quand ils ne peuvent plus vivre de leur terre ? ils vont pas tout de suite imaginer venir en France, parce que c'est, je veux dire, c'est un arrachement, c'est une douleur extraordinaire de quitter son pays, de quitter ses amis, sa famille, de quitter les odeurs, les couleurs, les choses dont on a l'habitude, voilà. Donc c'est d'abord une douleur, le fait de quitter son pays. Ils vont pas tout de suite se réunir en disant « bon, ben voilà, demain je pars en France ». C'est totalement inouï de penser ça. Et puis on fait un convoi de 150 personnes qui décident comme ça, du jour au lendemain, de quitter le Sénégal pour aller en France. C'est pas comme ça que ça se passe. Les petits paysans qui ne peuvent plus vivre, ils vont d'abord à la ville. Ils vont grossir les rangs des capitales et surtout les bidonvilles, hein, il faut bien le dire maintenant, qui existent. Les conditions de vie très très difficiles d'un certain nombre de villes, Dakar ou d'autres villes, qui sont les capitales de ces pays. Et par la suite, évidemment, bah, ils tentent leur chance pour les plus jeunes, pour les plus valeureux, si je puis dire. C'est-à-dire pour ceux qui ont la force aussi vitale, pour ceux qui ont même le bagage linguistique, culturel, etc. Et ils tentent leur chance, voilà. Ils tentent leur chance. Avant, ils traversaient beaucoup l'océan. Hein. Énormément sont morts. L'océan Atlantique, hein, je parle là des pays, notamment le Sénégal, dont il est question dans la mort du dieu serpent. Et dorénavant, eh bien, ils passent plutôt par les terres. Pourquoi ? Parce que nous avons, quand je dis nous, je ne me vois pas une part de responsabilité immédiate, mais nous avons, en tant que pays belligérant en Libye notamment, déstabiliser considérablement, quand même, bah, cette région, sans prendre les responsabilités après. C'est-à-dire que, certes, le colonel Kadhafi n'était pas quelqu'un d'extrêmement recommandable, mais on l'a quand même soutenu et toléré pendant très longtemps. Hein. Jusqu'au jour où il y a eu donc cette fameuse résolution de l'ONU qui a indiqué qu'il fallait une zone d'interdiction aérienne pour empêcher ce monsieur de massacrer son peuple. Bon, ça pouvait encore passer, puisqu'il y avait du droit international là-dessous. Il y avait une résolution des Nations Unies. Ni une ni deux, essentiellement la France sous la férule de Sarkozy et l'Angleterre sous celle de Cameron, à l'époque, ont outrepassé, et quand je dis outrepassé, ils sont allés bien, bien, bien au-delà de la résolution des Nations Unies. Ça a complètement déstabilisé, notamment un pays comme la Tunisie, qui se retrouve aujourd'hui avec quelque chose comme presque 1 million de Libyens, voire plus maintenant, sur son sol. Sachant que la Tunisie, ce n'est pas la France, c'est un tout petit pays qui, en plus, est en construction démocratique, grâce à leur révolution. Et donc, oui, nous avons une responsabilité énorme, énorme. Alors ensuite, pour ce qui est des traités internationaux, des traités notamment européens, eh bien, le problème, c'est que quand ils sont signés par la France, ils sont d'application immédiate. Et donc, quand il y a un accord européen, non seulement ils sont d'application immédiate, mais ils sont tout en haut dans notre hiérarchie des normes dont je parlais tout à l'heure. Hein. Et donc, il y a une urgence absolue à sortir de cette logique folle des traités européens actuels, notamment à l'égard des pays en développement, des pays les plus pauvres. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faudra faire tout de suite, quoi, hein, d'un point de vue politique, et que personne n'a jamais envisagé de faire depuis 20 ans. Parce que, évidemment, que c'est très lucratif. Je ne veux pas avoir de procès, donc je ne citerai aucun industriel français qui a pu, d'ailleurs, attraire devant les tribunaux un petit média comme Basta Mag récemment, mais enfin tout le monde connaît un peu les noms des industriels, notamment français, mais pas seulement français, bah, qui sont présents en Afrique pour leurs seuls intérêts et qui, mais c'est normal, je veux dire, un industriel qui peut bénéficier en plus du capitalisme financiarisé, qu'est-ce qu'il fait d'autre que faire fructifier ses intérêts? C'est normal, tout est normal là-dedans. Bon, et donc il appartient au pouvoir public, et ça peut être au niveau européen, de marquer les frontières à ces puissants. Et aujourd'hui, ces puissants-là n'ont plus de frontières. C'est ça le problème, ils n'ont plus de limites. Parce que toutes les limites ont sauté. D'un clic, on peut envoyer des milliards de France au Panama, rester dans l'actualité, ou aux îles Vierges britanniques. On s'en aperçoit aujourd'hui, on ne peut pas dire que la réaction politique soit à la hauteur quand même de l'événement. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire.
Hélène Franco, ancienne secrétaire générale du syndicat de la magistrature, vice-présidente chargée des fonctions de juge des enfants au tribunal de grande instance de Bobigny, est l'invitée du magazine.
À un plus bas niveau, toutes les lois dont je parlais, alors la loi du 8 mars 2016, donc a considérablement encore complexifié la situation, au lieu de faire un titre de séjour unique de 10 ans, ce qu'il faut faire, parce qu'il faut sécuriser les gens qui sont là. Il faut déjà leur donner 10 ans. Hein, ils ne sont pas obligés de rester 10 ans. Tout le monde n'a pas envie de rester 10 ans, 15 ans, 20 ans, toute sa vie en France. Mais au moins avoir un titre unique de 10 ans. Voilà, on n'en parle plus. Les gens sont dans les conditions, ils ont 10 ans. Déjà devant eux, ok ? Et puis après, on voit s'ils veulent rester ou pas. Mais personne ne les oblige à rester, premièrement. Deuxièmement, parce qu'à 10 ans, on peut emprunter à la banque. On peut faire des projets. On peut faire une formation professionnelle. On peut faire plein de choses, voilà. Aujourd'hui, je connais des centaines de gens, très franchement, qui sont là depuis 15 ans et qu'on balade, qui ont été régularisés au bout de 10 ans déjà de clandestinité, et qu'on balade un an. Et ça n'en finit jamais, voilà. Donc ça, c'est insupportable, c'est le supplice chinois, sans en vouloir à nos amis chinois, voilà, c'est vraiment quelque chose de très difficile à vivre et à supporter. Bon, ça, c'est la réalité très, très concrète de centaines de milliers de gens qui vivent ça au quotidien. Et puis, il y a toutes sortes de dimensions. Il y a la dimension des enfants, des mineurs isolés étrangers. Ça n'est pas traité dans cette loi du 8 mars 2016. Alors, sur les titres de séjour, donc la loi du 8 mars 2016, non seulement ne fait pas le titre unique de 10 ans. Alors, il reste les 10 ans. Enfin, c'est le Graal, hein, on ne peut jamais l'atteindre, pratiquement. Ils ont laissé un an, j'ai. Ils ont créé en plus un titre de 3 ans, un titre de 5 ans. Alors, le grand drame, à mon avis, c'est que il est fort possible que ceux qui pouvaient prétendre, au bout de tellement d'efforts, aux 10 ans, eh bien, en fait, se retrouveront avec un titre de 3 ans. Et que les titres de 3 ans, ils ne vont pas remplacer les titres d'un an, ils vont remplacer les titres de 10 ans, je pense. Malheureusement, dans beaucoup de préfectures, toujours avec l'aléa préfectoral, hein, parce que les préfets, interprètent. Bon. Donc il y a ça, il y a le fait que dans cette loi, on n'interdit toujours pas les tests d'examen osseux pour les mineurs isolés étrangers. Alors quelqu'un se présente comme mineur, déjà il est suspect, hein, dans la pratique et la loi actuelle. Il est suspect, d'abord il est suspect d'être majeur, voilà, la première suspicion. Voilà, on a une loi plus ancienne, hein, heureusement, qui nous dit, c'est l'article 47 du Code civil, qui nous dit qu'il y a une présomption d'authenticité des titres étrangers, hein, des papiers étrangers, quand ils sont présentés, quand ils peuvent présenter des originaux de papiers étrangers, actes d'état civil, par exemple, il y a une présomption d'authenticité. Mais elle peut être contournée, cette présomption. Hein. Enfin, on peut au moins s'appuyer là-dessus quand un enfant se présente, par exemple, au tribunal de Bobigny. C'est à peu près un par jour, hein, mineur isolé étranger à Bobigny. Bon, quand ils se présentent, on les reçoit et on examine d'abord s'ils ont ces fameux papiers originaux. Si c'est le cas, y a déjà une présomption. Si ces papiers les déclarent mineurs, il y a l'article 47 du Code civil. Et puis, il y a l'expérience, c'est-à-dire il y a l'entretien que le juge peut avoir avec la personne qui se dit mineure et qui sollicite le juge pour une protection. Hein. Puisqu'on leur reproche rien, hein. c'est pas du pénal. Hein. Ils n'ont rien volé, ils n'ont rien cassé. Ils viennent d'eux-mêmes au tribunal pour solliciter une protection du juge des enfants. Donc, à ce moment-là, on examine et un certain nombre de mes collègues continuent, je ne le fais jamais en ce qui me concerne, à faire pratiquer des examens osseux. Alors, les examens osseux, c'est sur une nomenclature des années 30, qui est très contestée par le comité d'éthique médicale, notamment, enfin par des gens très sérieux, hein, des médecins, qui disent que ça n'a aucune fiabilité, parce qu'en fait, vous avez un volant de 4 ou 5 ans. Hein. C'est-à-dire que quelqu'un qui a 16 ans peut en paraître 21 à l'occasion du test osseux, parce que la nomenclature est essentiellement faite sur la base de la typologie européenne, on va dire, des années 30. Donc on n'avait quand même pas tous les éléments scientifiques d'aujourd'hui. Et puis en fait, ce sont souvent aussi des personnes mineures qui ont fait des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres et qui ont eu une vie telle qu'ils ont vieilli prématurément. Nous avons fait un collectif, nous attendions beaucoup de cette loi, au moins de gagner l'interdiction des tests osseux, il n'en fut rien. Et tous les tests physiologiques sont encore éventuellement possibles aujourd'hui, c'est-à-dire l'examen des parties génitales, de la pilosité, etc. Donc des choses très... qui portent atteinte à la dignité, quoi. À la dignité humaine, tout simplement. Le plus grave avec l'histoire de la déchéance de la nationalité, c'est qu'un gouvernement, je dirais pas de gauche, ça n'a plus de sens, mais qu'un gouvernement de la République française, liberté, égalité, fraternité, ait eu l'idée même de proposer cela. C'est extrêmement grave. C'est confondant. C'est-à-dire que les digues ont complètement sauté, quoi. Une idée portée depuis 30 ans, 40 ans par un Jean-Marie Le Pen se retrouve être discutée comme quelque chose de sérieux et sérieusement envisagé pendant 4 mois et demi dans ce pays. Tout ça pour nous entendre dire au bout de 4 mois et demi, non, mais par le président de la République lui-même, qui n'a quand même pas eu le cran de le dire à la presse française, il l'a dit à un journal allemand, Bild. Il a dit, tout bien réfléchi, je vous jure que c'est vrai, hein, tout bien réfléchi, déchoir de la nationalité quelqu'un ne permet pas de lutter contre le terrorisme. C'est-à-dire exactement à peu près ce qu'on dit depuis 4 mois et demi, hein, depuis que cette histoire est sur le devant de la scène. Mais le mal est fait. Le mal est fait parce que, d'abord, c'est rentré dans les têtes que ça peut être une solution. C'est comme si quelqu'un, président de la République, avait pu dire, on peut envisager quand même, parce que c'est des terroristes, hein, c'est des très 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 méchants. Personne n'a quand même de sympathie pour ces gens-là. Hein. Moi, pour commencer, hein, je veux dire, que les choses soient claires. Alors, donc, c'est des très 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 méchants. Donc, c'est très 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 méchant. On peut envisager de rétablir la peine de mort pour eux, hein, mais que pour eux. Voilà. Alors, ensuite, quand vous avez mis le doigt là-dedans, c'est fini. Le bras y passe, la tête y passe, tout y passe. D'accord ? Parce que la peine de mort, par exemple, on est pour, on est contre. Il n'y a pas de demi-mesure. Si on est pour une certaine catégorie de personnes, eh bien, on est pour la peine de mort. Parce qu'on n'a jamais, ou depuis très longtemps, ça n'arrive plus, on n'a jamais quand même coupé la tête depuis très longtemps en France à des voleurs de poules. Hein. Donc, de toute façon, c'était en matière criminelle. Et contrairement à ce qui a été dit, dans ce qui était proposé dans la défunte réforme constitutionnelle, eh bien, c'était le mot terrorisme n'apparaissait jamais, tenez-vous bien, n'apparaissait jamais. On parlait de crime ou délit portant une atteinte grave à la vie de la nation. Voilà exactement les termes. Crime ou délit portant une atteinte grave à la vie de la nation. Alors un coup, d'ailleurs, c'était crime, et puis après, ils ont rajouté délit, enfin bon. Voilà, c'était la surenchère, là. Vous mettez 100 balles dans la machine, et puis à la fin, vous avez le jackpot. Bon. Alors, heureusement, évidemment, que cette affaire a été stoppée, parce que là, je veux dire, ça heurtait trop, quoi, les consciences républicaines. Mais jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Parce que là, il y a eu un sursaut, je veux dire, de républicain au sens noble du terme, hein, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité, encore une fois, hein. Mais on peut se demander jusqu'à quand. Et si un gouvernement très extrême à droite se met en place un jour, par les urnes, hein, eh bien, ils ont tout déjà, tout est écrit. crime ou délit portant une atteinte grave à la nation. Il n'y a pas de terrorisme, il n'y a pas que le terrorisme là-dedans. Il y a le terrorisme, bien sûr. Mais brûler un drapeau français, ça peut rentrer dans le truc. Hein. Siffler la Marseillaise, ça peut rentrer dans le champ. Alors donc, on va déchoir combien de gens de la nationalité française avec ça ? Voilà. Aujourd'hui, on a l'état d'urgence qui a été prorogé, on ne sait pas pour combien de temps. Et puis surtout, on a un régime d'exception, un régime attentatoire au droit, qui est rentré ou qui est en train de rentrer dans le code de procédure pénale. Ça a été adopté par l'Assemblée nationale, une très large majorité. C'est le projet de loi Urvoas, qui fait rentrer même le préfet dans le code de procédure pénale. Tout ça est en train de se passer. C'est-à-dire qu'on a une sorte, vous voyez, de pouvoir par le choc. Je crois que c'est Naomi Klein qui emploie la stratégie du choc, c'est ce terme-là. C'est-à-dire que de choc en choc, évidemment, on a des chocs externes, exogènes, qui sont les attentats qu'on a pu subir, que la population française résidant en France a pu subir, etc. La peur, la sidération. Évidemment. Mais on n'a pas besoin d'un gouvernement qui utilise cela et qui, en quelque sorte, crée des divisions là où il faudrait, au contraire, fédérer et puis faire vivre notre démocratie. C'est ça la réponse au terrorisme. C'est ça la réponse à la sidération. C'est de dire, mais voilà, nous, effectivement, on est extrêmement triste de perdre les nôtres. Et pour autant, la vie est la plus forte pour nous. Parce que c'est ça qui prévaut quand même dans notre culture, c'est la vie. Comme avait dit, je crois, le Premier ministre norvégien, après l'assassinat de masse par ce fou là, de Breivik, d'extrême droite, qui a tué quand même en une seule journée 90 personnes. Bon, après les assassinats perpétrés par Breivik, le Premier ministre a dit « Eh bien, nous allons surmonter cette épreuve » par plus de tolérance, plus de solidarité entre nous, et pas par la haine. Parce que la haine, c'est la pire des réponses. Nous ne détenons pas, nous, en tant que professionnels du droit, la vérité absolue. Et il n'y a pas de gouvernement des juges en France, heureusement d'ailleurs. Mais nous sommes des citoyens à part entière et peut-être un peu plus éclairés sur les lois que d'autres, puisque c'est notre métier qu'on a fait des études pour ça. Pour autant, donc, il y a eu des forces, effectivement, pour des forces, je dirais, attendues, et tout à fait intéressantes pour se mobiliser contre cela. Mais de manière plus intéressante, je dirais plus inattendue, donc plus intéressante. Il y a eu, par exemple, un certain Jacques Toubon, qui est défenseur des droits. Bon, Jacques Toubon, il a été garde des Sceaux il y a très longtemps, en 96, il y a juste 20 ans. Donc c'était pas quelqu'un qui était programmé, a priori, pour avoir toute la confiance des magistrats progressistes pour bien défendre nos droits. Et pour autant, c'est quelqu'un qui a donné de la voix, avec justesse, avec courage, avec constance, sur cette question-là. Il y a la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui a rendu des avis tout à fait intéressants, à la fois sur la déchéance de nationalité, sur l'état d'urgence. Vraiment, je vous invite à regarder ça de très près. Il y a des forces qui se lèvent, il y a Quadrature du Net, il y a beaucoup de collectifs comme ça qui sont en train de se fédérer, et c'est très intéressant, parce que avant il y a eu la loi renseignement, il y a eu tout ça, mais il y a eu cette folie aussi de penser que plus on écoutait les gens, plus on les espionnait, plus on captait de données informatiques sur eux en très grand nombre, eh bien, mieux on allait lutter contre le terrorisme. Non, c'est exactement l'inverse, en fait. C'est que le trop-plein d'informations tue complètement l'efficacité de l'information. Voilà. Donc ça, on s'en est aperçu, et il faut reconstruire un renseignement humain, de proximité, pour pouvoir effectivement prévenir d'un point de vue policier, c'est ça qui marche, les attentats. Bon. Ensuite, la haute magistrature s'est fait entendre, c'est pas souvent. Le premier président de la Cour de cassation, ce qui est assez exceptionnel, a fait un communiqué pour s'inquiéter de la marginalisation de l'autorité judiciaire à cause de l'état d'urgence et à cause de la loi Urvoas qui relègue le juge très très loin. Le contrôle du juge en démocratie, il est fondamental. Parce qu'à tout pouvoir doit correspondre à un contre-pouvoir. Voilà, c'est l'équilibre des pouvoirs qui est aujourd'hui mis à mal.
Merci à Hélène Franco, ancienne secrétaire générale du syndicat de la magistrature, vice-présidente chargée des fonctions de juge des enfants au tribunal de grande instance de Bobigny, pour sa libre participation à ce magazine réalisé avec le concours du Parti de gauche.